Vivante Église, reportage. Avec Marie-Pierre Pavlak.
Père et du Fils et du Saint-Esprit,
Amen.
La paix soit avec vous.
Et avec votre esprit.
C'est beau de voir ces communautés de l'ensemble paroissial rassemblées dans cet espace. Et donc, le Seigneur se réjouit de nous voir tous ensemble, convoqués par lui pour célébrer l'Eucharistie en ce début d'année pastorale. Vous vous accueillez deux pour l'instant, mais très bientôt trois, prêtres religieux et frères franciscains de l'Immaculée qui arrivent donc dans notre diocèse, et nous les accueillons avec joie. Et donc, voilà, le Seigneur vous envoie des prêtres pour que vous déployiez les grâces reçues au baptême et à la confirmation, pour que vous deveniez toujours plus, comme nous d'ailleurs, d'authentiques chrétiens et des témoins du Christ dans notre société, dans laquelle beaucoup de gens aujourd'hui cherchent le sens de leur vie. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché, en nous confiant à la miséricorde de Dieu.
Dimanche 22 septembre, la communauté paroissiale de Tournefeuille, qui avait invité Mgr de Quérimel, archevêque de Toulouse, à lancer son année pastorale, se retrouvait pour sa messe de rentrée dans la grande salle du phare de Tournefeuille. Une belle assemblée, joyeuse, diverse et emplie d'espérance. Mgr de Quérimel.
Alors voilà, oui, tout à fait, dans le contexte qui est le nôtre, qui est compliqué, contexte du pays, contexte international aussi, contexte de l'Église avec tous les scandales, etc. Mais en même temps, voilà, nous venons de vivre une messe avec une communauté importante et une très belle vitalité, avec beaucoup de jeunes, les scouts et beaucoup d'autres jeunes. Et donc tout à fait, c'est plein de signes d'espérance. Et puis sur cet ensemble paroissial, il y a chaque année beaucoup de catéchumènes qui demandent le baptême. Donc tout ça, ce sont de très beaux signes d'espérance. Voilà. Dans notre pauvreté, parce qu'on voit toujours, on compare avec ce qu'on connaissait avant, peut-être aussi trop, mais bon, on manque de moyens, on manque parfois de prêtres, pas ici cette année, mais voilà, il y a de très belles choses qui se vivent dans notre diocèse, oui, c'est tout à fait, plein de joie.
Une assemblée joyeuse, diverse, emplie d'espérance, venus de l'Ardenne, de la Salvetat, de Saint-Gilles, de Plaisance-du-Touche, de Saint-Simon, de Tournefeuille, mais aussi de...
Bonjour à tout le monde. J'habite Tournefeuille. Nous sommes arrivés ici, ma famille et moi, en provenance du Bénin. Ça fait à peine quelques mois. Et nous sommes très heureux d'être accueillis dans la communauté, dans votre communauté paroissiale. Merci. Nous, ça fait 2 ans qu'on est sur Tournefeuille. Et c'est notre première rentrée ici avec vous, et nous venons de Guyane.
Et avec ma famille, ça fait 4 ans que j'habite à Toulouse, plus de 11 ans en France. Je viens de Venezuela et merci par l'accueil.
Alors nous habitons à Tournefeuille, et c'est la première fois qu'on vient ici. Nous sommes originaires du Congo Brazza et de la Centrafrique.
Bonjour, nous on vient de Saint-Simon, et on vient du Portugal et de Haïti.
Nous venons de la Salvetat Saint-Gilles. Moi, ça fait depuis 2020 que je suis sur la Salvetat. Mon futur époux, ça fait 4 mois qu'il est venu me rejoindre. Nous venons de Martinique et nous sommes très heureux de commencer notre rentrée avec notre ensemble paroissial.
Bonjour tout le monde. Moi, j'habite à Tournefeuille depuis un petit moment et je me lance sur le chemin du Cacus Pulmina actuellement.
Bonjour, j'habite à Tournefeuille.
Et tu t'appelles comment déjà, toi ?
Lisa.
Bienvenue, Lisa.
Ces voix, ce sont celles des nouveaux arrivants, nouveaux fidèles que le Père Joseph, curé de l'ensemble paroissial de Tournefeuille, avait appelé à se présenter en ce début d'année, placé sous le signe de l'accueil. Se lancer, s'accueillir et rendre grâce.
Nous accueillons donc aussi les frères franciscains. Nous les avons attendus depuis quelques mois. On a parfois dit mais est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont pas venir. Alors ils sont là et nous sommes très heureux. Nous appelons les pères Clément et Justin pour venir se présenter.
Quelques jours plus tard, à la maison diocésaine, une semaine après leur arrivée, je rencontre les pères Clément et Justin. Tous deux, frères franciscains de l'Immaculée, l'une des jeunes branches de l'ordre des frères mineurs, qui a vu le jour dans les années 60-70 du siècle dernier. Père Clément.
Notre institut est né, j'ai dit, dans les années 60-70. Nos fondateurs étaient des franciscains conventuels. Vous savez, l'ordre des franciscains, les fils de Saint-François, c'est assez varié. Et il y a les franciscains conventuels, il y a les capucins, il y a les frères mineurs et qui sont nés au début du 20e siècle et toutes les autres ramifications. Mais tout ça, c'est l'ordre de Saint-François, avec la règle de Saint-François qui est ce qui est commun à nous tous. Mais il y a d'autres aspects spécifiques, les capucins qui sont qui devraient être plus conventuels et plus contemplatifs, mais ils sont aussi dans la pastorale. Et nous, franciscains de l'Immaculée, nous avons nos fondateurs qui étaient conventuels, ont voulu utiliser le charisme et ou bien l'inspiration de Saint Maximilien Marie Kolb, ce saint franciscain conventuel polonais et qui est mort durant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait une intuition. Et quelle est cette intuition? C'est vivre la vie franciscaine avec un aspect profondément marial, en mettant l'accent sur les moyens de communication sociale pour annoncer l'Évangile.
Le père Maximilien Kolb, vous dites mort pendant la Seconde Guerre mondiale, il est mort en martyr?
Il est mort en martyr, voilà, c'est, on dit martyr de l'amour. Et c'est pour cela que quand on célèbre la messe de Saint-Maximilien, on porte le rouge. C'est un martyr parce qu'il a donné sa vie pour un père de famille. Et il est mort.
Ouais, dans le bunker de la mort, c'est-à-dire qu'il est mort de faim. Ils ont laissé mourir de faim plusieurs personnes et lui était le dernier à suivre.
Mais lui, avant de mourir durant la Deuxième Guerre mondiale en camp de concentration, il avait déjà initié un apostolat. Et l'apostolat d'annoncer l'Évangile à travers les moyens de communication sociale. Il avait la milice de l'Immaculée, la presse, il voulait aussi une radio et il n'a pas pu lancer avant que la guerre n'arrive. Et puis, il était profondément marqué par la dévotion mariale. Il a fait un vœu privé et nous avons eu ce vœu privé que Saint-Maximilien a eu à faire. Nous l'avons comme vœu public. Alors, c'est pour cela que nous avons quatre vœux. Nous avons les trois vœux classiques, pauvreté, chasteté, obéissance et le vœu de consécration totale à la Vierge Marie. C'est pour cela que quand vous voyez les franciscains de l'Immaculée, vous voyez que leur corde a quatre nœuds au lieu de trois, et que vous voyez sur les autres franciscains. Et voilà notre spécificité ici. Et bien, voilà. Mais tout ce qui est fondamental, c'est la vie franciscaine, la vie mariale et l'annonce de l'Évangile.
Fils de Saint-François et frère de Maximilien Kolb, vous pourriez dire ça?
Oui, fils de Saint-François, avec la spiritualité de Saint-Maximilien, Marie Kolb, voilà. Mais voilà. C'est franciscain de l'Immaculée.
Père Justin, votre habit dit beaucoup de vous aussi. Le père Clément vient de nous dire qu'il y avait quatre nœuds à votre corde, mais vous êtes un habit franciscain d'une belle couleur.
Oui, c'est une couleur mariale, couleur bleu-gris, mais un bleu-gris assez clair, non, assez céleste, qui évoque Marie. L'intuition du père Kolb, c'est que Marie, elle veut agir avec des consacrés, Quelque part, moi, je pense que la proclamation du dogme de l'Assomption en 1950 corrobore cette intuition, non ? Puisque c'est une vérité connue de la communauté chrétienne depuis toujours, mais qui est proclamée de nos jours comme pour dire, comme Maximilien Kolb, Marie veut agir dans le monde et elle veut agir à travers des consacrés. Elle va pouvoir agir à travers des consacrés. Et il avait cette intuition très forte et il faisait ce vœu marial déjà d'une façon privée, mais il portait déjà ce que nous portons aussi, c'est-à-dire la médaille miraculeuse, la médaille de la rue du Bac que nous portons sur nous. Donc la couleur bleu céleste et puis la médaille surtout que nous portons manifestent clairement que c'est un signe pour dire Marie agit. Elle va agir évidemment à travers des moyens que nous ignorons le plus souvent, des moyens mystérieux, on peut trouver des consacrés ou que ce soit, pas forcément des gens qui font une consécration publique. Mais enfin, c'est un signe qui dit, voilà, il y a cette action de Marie dans le monde, qui est appelée par l'Église et par chacun, parce que Marie touche le cœur de chacun beaucoup plus, peut-être que Dieu lui-même, parce que l'histoire de péché avec Dieu, c'est une histoire de méfiance envers Dieu. Et nous n'avons pas cette méfiance envers Marie, nous avons cette confiance, et donc nous allons...
L'abandon.
Voilà,
l'abandon,
il y a plus d'abandon. Et justement, la consécration de Maximilien Kolb est très proche de la petite voix de la petite Thérèse. La petite Thérèse, elle s'abandonne dans les mains de Jésus, dans les mains de Dieu. Bon là, il y a une intuition similaire, une spiritualité qui a quand même des points en commun importants. La consécration à l'Immaculée, la consécration à Marie, c'est s'abandonner dans ses mains.
Et ces filiations, Saint-François, Maximilien Kolb, disent beaucoup de votre vie aujourd'hui à vous, franciscain de l'Immaculée.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que notre fondateur s'est inspiré à Maximilien Kolb parce qu'il voulait, sous l'impulsion du Concile Vatican II, revenir aux sources de la vie franciscaine, qui sont Saint-François essentiellement, bien entendu, et en même temps les adaptant au monde moderne. Et c'est ce que justement Maximilien Kolb a réalisé plus que beaucoup d'autres. Il a vraiment vécu en accueillant toute la nouveauté technique, toute l'innovation technique du XXe siècle, et il ferait la même chose aujourd'hui. C'est ce qu'on essaie évidemment de continuer.
Alors, d'une façon concrète.
Voilà, d'une façon concrète, déjà, la communication aujourd'hui se fait par des réseaux sociaux, par la radio. La radio, il n'a pas pu véritablement développer il a eu l'intention de le faire, mais lui-même n'a pas pu développer une activité radiophonique. Et ça, dans notre institut, le père Clément peut en parler mieux que moi, puisqu'il est béninois, il connaît de près, il a même dirigé la radio de l'Immaculée au Bénin. Donc on a une radio dans notre institut, il en parlera. Et nous avons une autre radio, d'ailleurs, à laquelle nous collaborons aujourd'hui, qui est Radio Mater, en Italie, au-delà de l'Italie, mais enfin qui est en langue italienne. Et nous utilisons aussi les réseaux sociaux. Très à l'aise. Personne n'est très à l'aise. Heureusement, on ne prétend pas être parfaitement à l'aise, parce qu'il y a toujours besoin de penser, de s'adapter.
Oui, et puis, rejoindre le maximum
de personnes.
Des jeunes, des moins jeunes, personnes qui sont loin de l'Église à travers les réseaux sociaux.
C'est vrai. On peut toucher des gens d'une façon beaucoup plus peut-être difficile à prévoir. Et donc il faut toujours être attentif un peu à ce qui se passe. Et toujours un peu réactif, en bon, en bien et en mal. Oui. Un peu suivre ce qui se passe, parce qu'évidemment il y a les réseaux sociaux, mais voilà, on trouve tous les comportements. Mais enfin, c'est bien, on peut aussi toucher positivement beaucoup de gens à travers les réseaux sociaux, en effet.
Comment nous actualisons ces François et ces Maximilien dans notre vie? Il y a trois pôles. Hein, et dans notre vie, Saint-François, déjà la vie franciscaine, la pauvreté, dame pauvreté, être proche des autres, vivre l'évangile au quotidien, dans la simplicité, c'est ça Saint-François d'Assise. Et puis Saint-Maximilien, c'est vrai que Saint-François déjà parlait de la Vierge Marie. Et déjà la Notre-Dame de la Proponcule, et là où il y a la basilique de Saint-François d'Assise à Assise, manifeste déjà sa dévotion mariale. Mais Saint-Maximilien a voulu mettre l'accent encore là-dessus. C'est le schéma, c'est l'annonciation, la visitation. Marie qui reçoit l'annonce et va vers. Alors, c'est ça la mission. Notre marianité, comporte la mission. Annoncer le Christ, accoucher le Christ dans le cœur des autres. Voilà la mission d'un franciscain. Dans sa visée, sa mission, c'est d'accoucher le Christ dans le cœur des autres. Et c'est Maximilien qui a toujours mis l'accent là-dessus. Et comme Marie, nous accouchons le Christ dans le cœur des autres. Comme à Bethléem, Marie a accouché le Christ, le Sauveur. Nous portons, il faut porter le Christ. Et pour accoucher, il faut l'avoir. Alors, ce schéma mystique de Saint-Maximilien est fortement, parfois même nous ne le comprenons pas. C'est plus dense. Et être ça franciscain
dépasse,
de...
Ça nous dépasse
nous-mêmes. Parce qu'être franciscain de l'Immaculée, c'est concevoir le Christ, accueillir le Christ et pouvoir le porter dans le cœur des autres.
Avoir un cœur immense pour accueillir le Christ.
Alors, et puis, Saint-Maximilien dit, déjà avant la Deuxième Guerre mondiale, il dit, aujourd'hui, il faudrait utiliser tous les moyens de communication, les moyens modernes pour pouvoir annoncer le Christ. Je crois que Saint-Maximilien a eu une intuition vraiment avant. Aujourd'hui, combien les réseaux sont envahis et ce que Saint-Maximilien a voulu, aujourd'hui, beaucoup de congrégations rattrapent. Vous voyez les congrégations qui sont sur les réseaux sociaux, l'Évangile, nous avons ALF, nous pouvons faire le brésilien maintenant. Saint-Maximilien le disait depuis. Et il faudrait aller dans ce sens, sinon le malin nous dépasse. Et utilise ces réseaux pour rejoindre tout de suite combien les réseaux sociaux peuvent mobiliser aujourd'hui. Et aujourd'hui, combien nous avons besoin de la radio, de la télévision, et pour pouvoir annoncer l'Évangile. Sinon, les gens reçoivent ce qu'ils ont là. Et c'est pour cela que nous, notre institut, nous avons la branche féminine aussi, et la branche masculine, nous avons traversé des difficultés. On n'est pas encore complètement sortis de nos difficultés. Sinon, en Italie, nous avions la radio, et dirigé par les sœurs, et nous avions la télévision, mais qui a un peu arrêté maintenant.
En lien avec Radio Vatican ou pas?
Non, oui, en lien avec Radio Vatican, tout à fait.
Oui.
Et au Brésil, nous avons la mission au Brésil, puisque nous sommes sur les 5 continents pratiquement. Au Brésil, nous avons la radio. Et au Bénin, là où je suis resté, j'ai travaillé depuis ma formation de aspirant postulant, depuis près de 26 ans dans la radio. Et nous avons la radio nationale, la radio catholique, l'unique radio catholique, lancée par les frères et qui est toujours une référence pour le pays. On devrait lancer la télévision, mais on n'a pas pu parce que nous sommes allés en crise dans notre institut. Maintenant, la télévision est lancée au Bénin et nous collaborons à la télévision catholique et la radio est un rayonnement franchement, ce qui travaille 24/24 et qui aide beaucoup depuis, et moi ici dans toutes mes missions au Cameroun en Corse ici maintenant à Toulouse, je continue de travailler à distance par des émissions pour cette radio. Et nous avons la radio aux Philippines, aux îles Philippines, nos frères continuent la radio. Aux États-Unis, c'est les réseaux sociaux. Tous nos frères travaillent dans les réseaux sociaux pour annoncer l'Évangile. Et beaucoup de frères ont eu leur vocation en contactant les frères, en voyant leur travail sur les réseaux sociaux. Et c'est là, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait manifester la présence de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu à travers ces moyens et qui sont très utiles aujourd'hui et où l'Église et l'Évangile semblent être absents. C'était l'intuition de Saint-Maximilien et je crois quand même que c'est encore actuel.
Et puis c'est la force de cette parole semée sur les ondes qui rejoint on ne sait qui, mais cela ne nous appartient plus. Et ensuite, c'est l'Esprit-Saint qui fait le reste.
Et oui, je crois que, comme dit Saint-Maximilien, il faut savoir être instrument dans les mains de Dieu. Nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Et utiliser aussi, avec un objectif bien fondé, spirituel, tout ce que Dieu met sur notre route. Par exemple, ces moyens-là. Et vous l'avez dit, combien de personnes sont couchées, peut-être ce que nous disons maintenant, sur le lit d'hôpital. La radio va plus loin. Ceux qui ne peuvent pas regarder la télévision, mais écoutent la radio.
C'est accompagné aussi.
Et
c'est
fait. Voilà. Alors ça, se sentir vraiment dans une communauté, c'est cela. Même à travers la radio, on prie, on dit « Je vous salue Marie ». Et on fait le chapelet, on écoute la messe, on écoute un entretien. On rentre dans une communion. Et c'est la communion des saints aussi. Et là, dans l'Eucharistie, nous vivons la communion des saints. La radio permet aussi de vivre cette communion. Voilà.
Et à Tournefeuille, alors, vous allez créer une radio?
Non, à Tournefeuille, non. Tournefeuille fait partie du diocèse de Toulouse. Alors, on ne peut pas. Non, on est venu d'abord dans la pastorale, comme franciscain. Et puis, bon, dans toutes nos missions, on n'a pas la radio. On a au moins 4 ou 5 radios. Oui, et il y a la parole, la prédication, et c'est ce que nous faisons. Maintenant, dans les missions, nous collaborons. Quand il y a déjà une radio, on ne va pas créer une autre. Moi, je viens de la Corse, et puis la Corse, on travaille avec RCF Corsica, une émission hebdomadaire, et pendant les mois clés de l'année où notre dévotion travaille, par exemple le mois d'octobre, le mois de mai, eh bien, nous avons des virgules mariales et qui aident les personnes. Et bien, maintenant, au niveau de là où le père Justin vient, dans le Val de Toulon, et nous avons un confrère qui a fondé la mission au Bénin, qui est mort cette année, le père Antonio, le père Antoine, et qui est très, très, très poussé dans les publications de revues et de livres. Et ça aide beaucoup. Et il a fait ça, va en Afrique. Les médias dont parle Saint-Maximilien, ce n'est pas seulement la radio, la télévision, c'est aussi les publications. Et Toulon travaille dans ce sens, et avec les calendriers et qu'ils sortent chaque année, les agendas, avec les références. Combien, moi j'étais en Corse et ça venait, et puis les gens utilisaient, sont abonnés et pris avec ça, avec les phrases clés de la Bible. Et c'est magnifique, c'est ça, dans cette ligne-là, que nous continuons de travailler. Et ici, nous allons peut-être, nous on dépend des supérieurs, qu'est-ce qu'ils vont signer avec le diocèse de Toulouse? Eh bien, c'est travailler dans la pastorale, comme Saint François d'Assise, et aussi dans l'esprit de Saint Maximilien, et pouvoir aussi donner de ce que nous pouvons faire, et pour la communication, si c'est possible. Alors nous obéissons à ce que les supérieurs nous disent de faire. Et bon, nous sommes instruments dans les mains de Dieu, c'est lui qui s'en charge.
Et comme vous disiez, quand on parle sur les ondes ou quand on parle dans le cadre d'une prédication dans un lieu de culte, de toute manière, on dépose dans les mains des personnes qui reçoivent cette parole et ça leur est confié. Et c'est confié à Dieu ou confié à toutes les personnes qui écoutent, au fond c'est pareil, c'est la même démarche. Comme le Seigneur, quand il dit « Dans tes mains, je remets mon esprit », il faut voir que ce sont les mains de la Providence, c'est-à-dire la communauté naissante qui est là, qui accueille l'esprit de Jésus, qui est là et qui le transmettra et le partagera. Et donc, c'est un acte de confiance dans les personnes et en Dieu en même temps. Donc, ce n'est pas dissociable. Mais c'est vrai qu'il y a les moyens de la prédication et puis les de la direction spirituelle, les rencontres spontanées, les conversations.
Après les Sœurs de la Résurrection, l'ensemble paroissial de Tournefeuille accueille donc une nouvelle communauté, les Franciscains de l'Immaculée. Nous venons de faire connaissance avec les Pères Clément et Justin, et dans quelques semaines, un troisième frère rejoindra la petite communauté qui réside d'ores et déjà au presbytère de Plaisance-du-Touche, maison ouverte à tous ceux qui en franchiront le seuil. Monseigneur de Kerimel, qui les a appelés, rend grâce pour leur toute nouvelle présence, non seulement dans le secteur de Tournefeuille, mais également sur l'ensemble du diocèse.
Alors bon, cette année justement, moi j'ai souhaité qu'ils découvrent le diocèse. C'est une année, donc ils vont participer à la vie de la paroisse, de l'ensemble paroissial, ils vont assumer donc les services de la paroisse, mais en même temps découvrir le diocèse, et petit à petit on verra si c'est la bonne place ici, s'il faut tel ou tel l'engager dans tel service. Donc ils sont un peu sensibilisés à la communication, Donc, et on verra s'il y en a un d'entre eux qui peut trouver une place dans la radio diocésaine. Ça, c'est le temps qui va nous le dire.
Plus généralement, ma question elle était plus générale sur la présence justement de ces communautés religieuses dans le diocèse, des poumons de prière, une autre approche aussi avec tout l'ensemble de la communauté chrétienne.
Oui, tout à fait. Donc c'est une grâce. D'abord, c'est un charisme supplémentaire de notre diocèse. Et puis, c'est une grâce forcément. Toute communauté religieuse, elle est porteuse de ce charisme. Elle va servir le diocèse. Elle va apporter quelque chose de nouveau dans le diocèse. Et nous nous en réjouissons.
Cécile, je pense que ça va apporter une nouvelle dynamique, une communauté peut-être de prières différentes que les prêtres de diocésains. En plus, ils vivent ensemble, donc je pense que ça va être différent, mais je vais découvrir avec joie.
Bonjour. Bon, je me sens un peu déjà à l'aise, j'avais un peu le stress, mais dans les présentations, il y a un Béninois là, donc il y a un peu Béninois. Donc je me sens déjà en famille. Déjà en famille. Merci à Monseigneur et qui nous a fait appel, qui nous a accueillis. Et d'abord, merci à Dieu. Comme l'évêque l'a dit tout à l'heure, nous sommes appelés, nous sommes invités. Et c'est Dieu qui nous invite pour sa mission, pour sa moisson. Et voilà, nous sommes là. Déjà dans cette grande joie, il y a 2 mois et demi, nos supérieurs nous ont envoyés pour aller sentir l'odeur du terrain, pour voir si on va y rester. Et nous avons été très bien accueillis par Monseigneur Guy Kérimel, son vicaire général et toute l'équipe. Et nous avons découvert la joie de notre frère Joseph et nous avons senti que ici la grande famille nous accueille. Nous serons 3, si Dieu le veut, et nous serons avec un jeune frère togolais. Il a été ordonné en juin dernier, il est au pays maintenant pour célébrer ses premières messes et va nous rejoindre fin octobre, si Dieu le veut. Déjà depuis 2 mois, on sentait que le Seigneur nous appelle ici pour servir. Et l'accueil que nous avons eu, vraiment la préparation, présent de tous, vraiment, les petits mots, même sur les lits, et même le repas, le premier repas du soir. Merci pour votre accueil, pour votre préparation, et je voudrais dire merci pour votre sourire. Et c'est beau. Et gardez cela, c'est une richesse. Merci.
N'accueillons personne dans l'Église ou au sein de notre communauté, nous nous condamnons à la mort et à la disparition. Les nouveaux nous renouvellent, écrivait le Père Joseph dans l'édito de la feuille paroissiale. Au fil des semaines, des mois, paroissiens et frères franciscains vont apprendre à se connaître, à se découvrir frères et sœurs dans le Christ. Une belle communauté, belle et riche de ses différences.
C'est l'universalité, c'est la catholicité de l'Église, l'Église universelle. Et c'est vrai que c'est une joie pour moi de découvrir cela. Moi, je viens de la Corse et où il y a beaucoup de touristes qui passent, mais qui ne s'arrêtent pas. Mais une communauté présente et diversifiée. Je voyais dans l'Église, enfin dans cette salle de la messe dimanche dernier, presque tous les 5 continents. Et c'est bien de partager, de s'asseoir sur le dénominateur commun qui est le Christ. Et c'est beau ça. Et ça, la catholicité, l'universalité, et partager nos valeurs. Et aussi, on était aussi pour le petit verre d'amitié avec l'évêque. Et bien, c'était beau hein, de voir comment chacun apporte le sien. On vivait comme les premiers chrétiens. Chacun apporte du sien. Et on a partagé un après-midi dominical magnifique pour lancer l'année pastorale. C'est ça l'universalité. Mmh. C'est ça l'Église.
Et la fraternité.
La fraternité, mais c'est cela. C'est cela. Et voyez comme il s'aime. Et c'est ça. Mais quand chacun tire le drap de son côté, chez moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça, tout cela se base sur l'humilité. Et c'est ça, cette communauté. On va découvrir encore plus, parce que nous sommes là pour travailler ensemble paroissial de Tournefeuille, et qui a 5 clochers, et qui couvre 4 communes, et 70 000 habitants. Et voilà, on vient découvrir, et on vient donner ce que nous avons, selon notre expérience. Chacun a traîné ses bosses un peu partout avant de venir ici. On va aussi accueillir. Parce que dans la pastorale, en donnant, on reçoit.
Vous avez traîné vos bosses un petit peu partout, l'un et l'autre. Votre rencontre, vous, avec le Christ, Père Justin.
Alors, moi, personnellement, je suis français. Je suis de Loire-Atlantique. J'ai beaucoup vécu à Paris, où je travaillais. Et j'ai travaillé une vingtaine d'années, surtout dans l'hôtellerie. Et dans ma vie, j'ai beaucoup cherché la vérité. Je la cherchais chez les philosophes, mais aussi en travaillant, à travers les relations avec les gens. Je voulais vivre une vie concrète, vivre réellement pour trouver cette vérité. Et je l'ai finalement trouvée et retrouvée dans le Christ. Ça m'est apparu clairement au bout de ma recherche, autour de l'âge de 30 ans. J'ai fait cette conversion assez forte, où je me suis dit, voilà, c'était le fruit de cette recherche, voilà, c'est la vérité, c'est le Christ. Et ma conversion m'a porté à être de plus en plus fervent. Et à l'intérieur de cette ferveur, le Seigneur finalement m'a appelé. Il m'a appelé et vers l'âge de 35 ans, j'ai commencé un parcours de discernement pour avoir confirmation de ma vocation et pour savoir où aller aussi. Et voilà, le Seigneur m'a appelé concrètement devant le crucifix chez moi un soir, comme ça, dans la prière personnelle. Et j'ai évidemment réfléchi, ce qui nous laisse le temps de réfléchir, de dire oui ou non. Et j'ai dit oui, et voilà, je l'ai suivi. Maintenant, après une dizaine d'années de formation en Italie, j'ai été ordonné prêtre à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, où j'étais aussi en mission pendant un an et demi. Et puis, le Seigneur maintenant m'a rapatrié, m'a reporté vers ma patrie. Pour moi, c'est nouveau de me trouver en France. Et j'étais quelques mois dans le Var, et maintenant, je suis ici à Toulouse. Et pour la première fois, je vais servir au sein d'une paroisse. Jusqu'à présent, je donnais un coup de main parfois dans les paroisses, mais je n'étais pas en immersion, disons, dans le travail paroissial, dans la pastorale. Et donc, je suis très heureux d'être accueilli ici dans le diocèse.
Un nouvel apostolat.
Voilà, un nouvel apostolat.
Ben, c'est une. La rencontre avec le Christ est toujours un mystère qui nous dépasse. Et on n'a pas les
les données pour apprécier. Bon, le père Justin, bon, il a, peut-être qu'il a eu l'intuition, il cherchait la vérité, il a pu sentir. Parfois, c'est pas parfois, c'est toujours, hein, la vocation est un mystère. Est un mystère qui nous dépasse nous-mêmes. Moi, ma vocation, j'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne. J'ai été baptisé très tôt, 2 semaines après ma naissance. Et mes parents sont chrétiens, bon, pas à leur niveau, pas intellectuel, pas du tout. Mais j'ai vécu dans une famille où on priait. Et j'ai grandi dans cette famille. Après, je me suis engagé, très engagé d'ailleurs, à travers le scoutisme et puis à travers l'aumônerie de la jeunesse. Et bien voilà, je me préparais avec mes études. Bon, j'ai fait des études de droit, je finissais ma licence. Et bon, je continuais quand je suis venu en France. Ma vocation, je la dois à la France. Hein. Je suis arrivé en France en 1997 pour les Journées mondiales de la jeunesse, pour les JMJ, où j'ai participé à ces JMJ et qui m'ont marqué. J'ai été marqué par Jean-Paul II, j'ai été marqué par Thérèse de l'Enfant Jésus en allant à Lisieux, j'ai été marqué par la rue du Bac et la Vierge Marie. Je ne savais pas qu'après ces JMJ, la Vierge Marie va me retrouver et puis je vais porter encore cette médaille miraculeuse qui est incorporée à notre habit. Alors, j'ai découvert vraiment ma vocation à travers ces JMJ. Le thème, c'était « Maître, où demeures-tu ? » Venez et voyez. Alors, j'ai découvert. Et après, voilà, j'ai rencontré, après avoir fait quelques tâtonnements chez les jésuites, les dominicains, et finalement, j'ai découvert les franciscains, la vie de Saint-François m'a vraiment dit, mais c'est ça que je cherchais. Et bon, alors, donc, j'étais déjà, bon, pas trop âgé, mais 26 ans, 27 ans, mais je me préparais aussi pour mon mariage, puisque j'enseignais déjà. Mais cette vocation est venue me retrouver. Et le Seigneur m'a montré clairement, hein, à travers les conseils, les directions spirituelles, et que voilà, c'était là le chemin. Et bon, j'ai commencé l'expérience de Saint-François, ma formation au Bénin, et la première formation jusqu'au vœu, et puis l'Italie, les études, philosophie, théologie, et après, bon, après l'ordination en 2006, et on m'a envoyé en mission pour m'occuper de la formation des plus jeunes. Donc j'ai fait la formation, enfin, je me suis occupé des postulants, des novices pendant quelques années. Après, on m'a envoyé en mission au Tchad, où j'ai été directeur d'une radio, la radio diocésaine du Tchad, pendant 4 ans. Et cette radio existait et on nous a confié cela compte tenu de notre charisme et on a fait ce qu'on a pu. Et après, je suis reparti au Cameroun dans la pastorale et en même temps en donnant un coup de main aussi à la radio diocésaine Veritas de Douala au Cameroun. Et après, Cameroun, une autre mission m'a été confiée, et m'occuper un peu, représentant des supérieurs généraux, m'occuper au plus de la mission en Afrique. Après cela, bon, voilà, je suis arrivé en Corse, 2 ans en Corse, mission pastorale, autre mission spécifique que l'évêque m'a confiée. Ah, voilà. Et puis, cette rencontre du Seigneur s'est développée dans le temps. Et c'est petit à petit qu'on découvre que, ah oui, c'est avec le Seigneur. Le oui qu'on a dit, c'est un oui qui s'échelonne sur le temps.
C'est le fiat de Marie.
Le oui de Marie. Le oui de Marie ne s'était pas arrêté au fiat. Et le oui de Marie a continué, même dans la vie publique de Jésus, a continué au pied de la croix, a continué aussi à la Pentecôte. Et ce oui continue. Et c'est notre vie, ce oui.
L'année pastorale a déjà commencé. Comment sera-t-elle ? Nul ne le sait. Elle sera certainement ce que le Seigneur aura voulu, parce qu'il est celui qui conduit son Église par son esprit, mais aussi ce que chacun de nous voudra qu'elle soit par le don de soi-même, par son engagement, ses services à la communauté et notre abandon personnel et communautaire au souffle du Saint-Esprit. Alors, lançons-nous dans l'espérance. Ainsi débutait le bel édito de rentrée du Père Joseph.